La marche du monde.
Permettez-moi de vous citer les paroles de Hồ Chí Minh sur l'indépendance du Vietnam. Il a dit ceci à la descente d'avion au Bourget. Toute ma vie, j'ai lutté contre le colonialisme, mais j'ai toujours aimé et adoré le peuple français. Mot à mot, je partage cette idée avec Hồ Chí Minh.
Après l'audition de l'hymne vietnamien, je vais essayer, je m'approche du président Hồ Chí Minh. Monsieur le président, au moment où vous prenez contact avec le sol de France, voulez-vous dire quelques mots, s'il vous plaît, au micro de la radiodiffusion française?
Frères français, laissez-moi vous dire que, français et vietnamiens, nous avons le même idéal, liberté, égalité et fraternité. Nous poursuivons le même but, la démocratie et la paix. C'est pourquoi je suis sûr que Français et Vietnamiens, nous y arriverons sûrement et rapidement à l'entente et à la collaboration égale, loyale et fraternelle.
Et plus tard, dans une conférence de presse internationale, il a répondu aux questions des journalistes que le vœu le plus cher du Vietnam, en 1946, c'est de marcher sur les traces de la France de 1789, de la résistance en majuscule et de la libération en majuscule. C'est simple, c'est clair, c'est de marcher sur les traces de la Révolution française, sur les traces de la résistance française et de la libération. Moi, je partage cette idée.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
La voix de Monsieur Son dans la marche du monde. 60 ans après la victoire des Vietnamiens, Dien Bien Phu, il nous raconte sa résistance et sa guérilla lancée par l'oncle Ho, Hồ Chí Minh, père de l'indépendance du Vietnam. Hồ Chí Minh arrivant en France en 1946 pour négocier les termes de cette indépendance avec l'Empire français. Mais les discussions n'aboutissent pas et ce sera la guerre d'Indochine pour 9 longues années. Je retrouve Monsieur Son dans la vieille cité de Hanoï, dans la rue même où il a grandi.
J'avais conscience de tout autour de moi. La situation du Vietnam pendant 5 ans, 1940 et 1945, la situation, surtout à la campagne, était épouvantable. La famine permanente. On n'avait rien. Et vous savez, en 1945, tous les matins à Hanoï, tous les jours, après les classes, j'avais 13 ans, et les autres adolescents, les autres jeunes, nous ramassions les cadavres des morts sur les trottoirs de Hanoï, partout, même dans cette rue. Et le matin, on nous ouvrait les portes et on voyait tout de suite des morts de faim, juste devant la porte. Et nous, après la classe, nous prenions des charrettes et nous ramassions des cadavres pour les enterrer. Et ça a continué jusqu'à la Révolution. Alors tout ça avait laissé dans mon âme, dans ma pensée, beaucoup, beaucoup d'émotions. C'est pourquoi, le 19 août 1945, tous les Vietnamiens ont accepté la Révolution, sans distinction de classe sociale. Les riches et les pauvres, les nobles, les intellectuels, les illettrés, dans les rangs de la Révolution. Ce n'était pas une révolution prolétarienne. Le 19 août 1945, c'était une insurrection générale. We'll be right back.
dans la vieille cité, Monsieur Son. De quelle façon vous vivez vous-même cette insurrection? Vous êtes très jeune. Quels souvenirs vous gardez de ce que vous avez fait, vous, ce jour-là?
Dans ce jour-là, j'étais comme Gavroche dans les barricades de Paris. Ici, dans les barricades d'Hanoï. Immédiatement après la révolution d'août, les troupes françaises sont revenues avec les troupes anglaises dans le sud d'abord. Et après le modus vivendi du 6 mars 1946, Ho Chi Minh a signé un modus vivendi le 6 mars 1946. Alors j'avais 14 ans. La deuxième division du général Leclerc est venue avec des blindés, beaucoup de blindés, des tanks, des camions, avec les soldats bérets rouges. Et tous les jours, les blindés du général Leclerc circulaient dans les rues d'Hanoï, ici, autour du lac. Et les patrouilles françaises, jour et nuit. Une fois, j'ai pleuré.
Pourquoi ?
J'étais choqué parce que je sens que ça, c'est très humiliant pour nous, pour un peuple. De voir les soldats français qui se comportaient comme des maîtres à Hanoï et au Vietnam.
Sous l'impulsion du général de Gaulle, la France cherche à s'imposer de nouveau dans un Vietnam fragmenté et meurtri par la grande famine. 1 million de morts dont Japonais et Français sont tenus responsables. C'est donc par le Sud que les Français sont revenus dès septembre 45. Et c'est à ce moment-là que Thuan, une toute jeune fille de la noblesse, décide de s'engager.
Tôi đi theo ngành y là ngay từ khi có phong trào xếp bút nghiêng là khi Nhật đảo chính Pháp.
Quand les Japonais ont renversé les Français et quand les Français sont revenus à Saigon, il y avait un mouvement chez des jeunes étudiants et des jeunes lycéens, c'était de laisser tomber les études pour suivre la révolution. Il y avait une chanson pour ce mouvement-là. J'avais 15 ans quand j'ai décidé de m'engager dans l'armée révolutionnaire et aider à soigner des blessés. Je peux dire que j'ai commencé à travailler dans la santé à partir de ce moment-là.
Toine, vous vous souvenez de cette chanson? Vous pourriez nous la chanter justement?
Xếp bước nghiêng lên đường tranh đấu, xếp bước nghiêng coi thường công dân ta vì dân sơn hà nguy biên tiếng ta tiếng. Một lòng vì non sông, cứ dân ta quen thân, thương hà ta nguy biên, nước non trao người, hèn thay đời nhàn cư, hèn thay vui yêu đương, khi quốc thương cần người, dứt lòng tơ vương, tra từng lên yên, hùng Việt Nam hùng thiên, từ ngàn xưa ngàn tâm, ta lên đường xếp bút nghiêng. Thì tôi cũng nhớ luôn, tại mới hát là tại vì vừa rồi mới họp.
C'était une chanson composée par Lưu Hữu Phước.
Ở Hà Nội có những chị 95 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi vượt lên hát những cái bài.
Un grand musicien qui était aussi un dentiste. Et après la paix, il est devenu ministre de la Culture du gouvernement du Sud.
Nous, gouvernement provisoire de la République démocratique du Vietnam, proclamons solennellement au monde que le Vietnam a droit à la liberté et à l'indépendance.
Vous avez 15 ans, Toine. En 45, vous avez entendu au stade les Viet Minh porter la parole d'Ho Chi Minh, annoncer cette indépendance du Vietnam. Donc vous entrez dans la lutte. Et vous, concrètement, qu'est-ce que vous faites, Toine?
À ce moment-là, nous sommes dans le groupe de santé. Notre chef, c'est un étudiant de 5e année qui engage dans des jeunes gardes.
Donc vous êtes engagé dans la brigade
à UE. Et à quoi vous préparez-vous? Qu'est-ce que vous apprenez? Est-ce qu'on vous apprend, comme les garçons, à manier les armes, par exemple?
Non, on voit chaque jour de l'exercice à la gymnastique. On apprend la discipline des gens qui travaillent dans l'armée. Et puis on divise des groupes d'élèves d'Onkhan. Il y a 6 jeunes filles dans son groupe, avec des écoliers et aussi des anciens infirmiers et des étudiants qui reviennent de l'université de Hanoï et qui nous enseignent, qui préparent et les bandages et les piqûres. Et puis il y a apprendre les noms des médicaments comme macrochrome, solution bourgée. On nous enseigne de comprendre quand il y a des gens qui viennent dans la section de santé, dans son brigade. Voilà.
Donc Toine, en fait, lorsque vous avez 15 ans dans les brigades AUE, c'est à la fois une libération contre le colonisateur, contre les envahisseurs extérieurs, mais c'est aussi une libération pour vous, en tant que jeune fille, personnelle, une libération personnelle aussi.
Personnelle aussi, je crois qu'il y a un changement, et puis je peux sortir libre, pas toujours englobée dans la famille. Et je suis très heureuse de porter une calotte avec l'étoile. Et puis, je suis très heureuse dans la bicyclette avec un sac pour venir à l'hôpital, pour recevoir des bandages, pour retourner à la brigade. Je veux travailler et sortir, pas toujours près de maman et toujours dans la maison. Voilà.
Les yeux de Toine brillent de plaisir lorsqu'elle évoque sa résistance et le transport de médicaments. Nous sommes déjà en 1946 et les négociations entre Ho Chi Minh et le gouvernement français échouent. Ce sera la guerre. Pour Madame Toine, Monsieur Son ou Oncle Mai, c'est le temps de l'engagement.
Với tôi thì phải nói trước ngày kháng chiến tôi còn là học sinh nhà trội.
Avant le début de la résistance en 1946. J'étais élève à Hanoï.
Thế và đến ngày bắt đầu toàn quốc kháng chiến ấy, thì tôi đã trở thành một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Et pendant cette période de résistance contre les Français, je suis devenu orphelin.
Một đứa trẻ không có gia đình.
Sans père ni mère.
Thế và tôi đến lúc tản cư thì tôi đi theo một cái ông bác họ ở Khoái Châu, Hưng Yên và tôi đi bộ đội.
J'ai été accueilli par mon oncle dans la province de Hanoï et j'ai vu de mes yeux des violences commises par des Français.
Bắt lính rồi thì là bắt người.
J'ai vu des Vietnamiens tués sous mes yeux ou enrôlés de force. J'étais le cadet de la famille. J'avais 3 frères et sœurs. Ma sœur était en ville, à Hanoï. Mon frère s'était déjà engagé dans l'armée populaire. Et moi qui étais avec mon oncle, moi qui voyais le comportement des Français, je n'avais qu'une idée, c'était partir de cette zone occupée par les Français. J'habitais près d'un marché qui s'appelait Marché Mehe, dans un village de Meso. Il y avait un poste de Français pas loin de ce marché. Il y avait des rafles quotidiennes. Les Français passaient devant moi pour aller chercher des résistants. Et quand ils les ramenaient prisonniers, je les ai vus les battre. Il y a eu des moments où ils ont obligé les villageois à venir sur un terrain pour assister à la mise à mort des résistants.
Đến cuối năm 1951 ấy, thì là quân ta vào giải phóng đánh cái đồn ở chỗ chợ Mễ đấy. Giải phóng thì tôi đi theo.
En 1951, l'armée de résistance a réussi à prendre le poste français et à chasser les Français du village.
Tôi đi theo thì lúc bây giờ khám tuyển, người ta cũng khám tuyển để cho vào bộ đội có được không? Thì tôi phải khai tăng tuổi lên.
Ils ont commencé à recruter parmi les jeunes. J'avais pas l'âge pour entrer dans l'armée. J'ai donc triché.
Như lúc bây giờ tôi chỉ có 44 cân. Thế thành tôi phải nghĩ ra một cái mẹo, tức là tôi vào cái ông lò rèn ở dìa đường ấy, tôi mượn ông ấy mấy cục sắt.
Et puis il fallait peser au moins 45 kilos pour pouvoir s'engager. Je n'en faisais que 44. Je suis donc allé chez un forgeron du village. J'ai pris un morceau de fer pour compenser mon manque de poids.
La Marche du Monde est au Vietnam, à la rencontre de celles et ceux qui ont vécu la guerre d'Indochine. Le 19 décembre 1946 marque le début officiel de la guerre. L'armée française découvre peu à peu l'importance de l'engagement idéologique des Viet Minh. À 12 000 km de Paris, les soldats font l'apprentissage de la guerre de contre-insurrection. La pacification est souvent brutale et transforme des officiers en chefs de village. Au nord, des commandos sont parachutés au sein des minorités ethniques, autant d'épisodes traumatisants pour Madame Touc et sa famille.
Pháp nhảy dù Bắc Cạn, Cao Bằng, quê hương tôi. Và đúng là Pháp nhảy dù Bắc Cạn và Cao Bằng.
Quand la France a parachuté des soldats sur Cao Bằng, ma région natale, on a dû évacuer le village.
Thế thì cái ý thức đầu tiên về những hành động.
Je dirais que c'est seulement à ce moment-là que j'ai pris conscience de la méchanceté des Français.
Tôi chạy vào một cái khu rừng cả gia đình và rất đông người. Thế thì từ núi cao tôi nhìn về cái chỗ mà chúng tôi vừa đi qua đó.
Nous avons rejoint la forêt et depuis les hauteurs, j'ai regardé en arrière.
Từ trên núi cao, tôi nhìn xuống cái bản mà chúng tôi vừa chạy tản cư với cùng khiếp rất nhiều đồng bào. Nhìn xuống thì tôi thấy một đội quân của Pháp.
J'ai vu des Français brûler une grande maison sur pilotis. Elle appartenait à une ethnie minoritaire. Et c'est la maison où nous étions abrités quelques instants plus tôt. À côté de moi, il y avait toute la famille du propriétaire. Et je ne sais plus de quelle ethnie ils étaient. La jeune femme s'est mise à crier dans sa langue que je ne connaissais pas. Et pour la première fois, j'ai compris ce que c'était la haine.
Sau đó thì gia đình tôi và tất cả những đồng bào ở trong cái thị xã Cao Bằng ấy là phải núp ở trong rừng.
Ma famille avec les gens du village,
trốn trong những rừng.
Nous sommes restés cachés dans la forêt.
Trốn trong rừng hy vọng là người họ rút đi trở về.
Nous espérions que les Français allaient finir par partir. Mais notre espoir était vain.
Khi cách mạng tháng 8 của ta thành công thì tôi ở quê tôi. Thì lúc này thì bố tôi vào bộ đội.
Quand la révolution d'août de 1945 a réussi, je suis retourné dans mon village natal. Mon père, lui, il s'est engagé dans l'armée populaire.
Đầu năm 1948 thì bố tôi hy sinh trong cái vụ thử vũ khí của cụ Trần Đại Nghĩa.
En 1948, mon père a trouvé la mort en testant des armes nouvelles. C'était des expériences menées par un ingénieur, un grand intellectuel. Il avait lui aussi été formé en France. La mort de mon père a été reconnue comme un sacrifice pour la patrie.
Ở Ninh Giang, Hải Dương, được công nhận là liệt sĩ. Tôi theo mẹ về Hà Nội và tiếp tục đi học.
C'est alors que je suis rentré à Hanoï avec ma mère et j'ai repris mes études ici.
Monsieur Quy, vous avez 14 ans lorsque vous devenez orphelin. Vous êtes ici à Hanoï avec votre mère. À l'époque, quelle vision avez-vous des Français ?
Tôi thì năm 14 tuổi tôi trở về mẹ tôi Hà Nội thì
Quand je suis venu à Hanoï avec ma mère, j'avais 14 ans. Donc je dirais que je n'étais pas très conscient de la situation. Mais le sacrifice de mon père pour la patrie a laissé en moi une marque indélébile. C'est pour ça qu'en mai 1949, je me suis enfui de Hanoï avec deux amis pour aller vers la zone libre et pour participer à la résistance.
C'est dans sa maison natale, à Hanoï, que M. Cui évoque la mémoire de son père. À l'époque, le jeune agent de liaison n'a pas de mobylette, encore moins de voiture. Les liaisons se font à bicyclette ou encore à pied.
Une fois dans la zone libre, j'ai été muté dans les forces de police du gouvernement libre. Nous étions localisés à l'extérieur de Hanoï. J'étais agent de liaison entre la zone libre et la zone occupée par les Français. Et en février 1951, alors que j'étais en route pour une mission vers Hanoï, je suis tombé dans un piège et j'ai été capturé. J'ai été capturé par des Vietnamiens pro-français. Ils m'ont torturé pendant un mois et 28 jours. Ensuite, ils m'ont jeté en prison. J'avais le numéro PMT 35528. Après, ils m'ont transféré dans le camp de prisonniers numéro 13, dans la province de Hanoï.
Dans l'armée française, il y avait donc des Vietnamiens, mais également des soldats issus des colonies françaises, des soldats indigènes.
Oui, dans l'armée française de l'époque, il y avait des soldats noirs. Il y avait aussi des Tunisiens, des Italiens. Et aussi des Allemands, des Espagnols. J'ai eu l'occasion d'avoir des contacts avec eux, et c'était des légionnaires de l'armée française.
Monsieur Cui parle sans haine de la guerre contre les Français. Il a conservé un précieux butin, la culture.
Je dirais que dès mon enfance, j'ai été confronté à la culture française, dès l'école. Je me souviens des œuvres littéraires, beaucoup, comme les romans de Victor Hugo. Les Français étaient là pour coloniser le Vietnam, mais je dirais, à titre personnel, qu'ils ont aussi contribué au développement de ce pays et qu'ils ont chassé le royalisme.
Monsieur Cui, tout comme Monsieur Son, n'ont de cesse de me répéter qu'ils se sont battus contre le système colonial français, pas contre les Français.
J'adore la langue française, j'adore la littérature française, la culture française. Quand j'enseignais le russe à l'université, je me battais pour la place de la langue française dans le système d'enseignement. Une place qui soit digne de la France.
Vous, comment vous l'avez appris le français ?
Autodidacte. Je suis professeur de russe. Je parle russe. J'écris le russe, bien sûr. Autodidacte. Grâce à mon amour de la langue française. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Moi, je t'aimais, moi, toi qui m'aimais, nous étions tous ensemble. Voilà, j'aime ça, j'adore ça.
Merci Monsieur Son pour votre témoignage. Merci également à Monsieur Kui, Madame Tuc, Monsieur Mai, Monsieur Nam et Madame Tuan. Vous êtes tous des enfants de Dien Bien Phu et nous vous retrouvons la semaine prochaine dans la Marche du Monde pour revivre l'illustre bataille du 7 mai 54. Les enfants de Dien Bien Phu, premier épisode. C'est une édition de La Marche du Monde réalisée par Cécile Pompeani avec les archives de l'INA et de RFI et la complicité de notre stagiaire Philippine Veil. Un grand merci à Daota Nguyen pour la qualité de ses traductions. J'en profite pour vous recommander son livre Dien Bien Phu vu d'en face. C'est aux éditions Nouveau Monde. N'oubliez pas de vous exprimer sur Facebook. Réagissez marche.monde@rfi.fr. Podcastez cette émission, c'est la vôtre.